Croyons que le Seigneur veut encore nous parler encore ce matin sur le thème que nous avons choisi, que nous voyons que le Seigneur nous dirige dans ce temps, dans ce début d'année. Voilà, donc depuis le début de l'année, on a partagé sur plusieurs choses par rapport justement à comment briller pour notre Seigneur, comment aussi être rempli de l'Esprit Saint. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, quelques points, comment être rempli du Saint-Esprit. Nous allons voir que le Saint-Esprit est là avec nous et il veut que nous soyons vraiment connectés avec lui jour après jour. Donc, c'est un renouvellement qu'on doit faire régulièrement avec le Saint-Esprit pour être rempli, pour être béni, pour voir comment que le Seigneur veut briller en nous. Donc, les exemples que je vais partager viennent un peu du pasteur Ray, qui est donc le mentorat que je suis de Church Renewal. Qui nous encourage justement à être remplis du Seigneur. Donc, lui, lorsqu'il parle d'être rempli du Saint-Esprit, il ne parle pas d'une expérience comme on parle souvent des milieux pentecôtistes, comme le baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas ça que nous croyons aussi en tant que personne. Donc, on croit que lorsque nous sommes convertis, Dieu est présent et Dieu agit et le Saint-Esprit est là avec nous. Et donc, quand on va de l'avant, on a besoin de continuer d'être rempli de l'Esprit de Dieu. Parce que c'est possible qu'on puisse peut-être perdre un peu cet esprit. L'Esprit de Dieu reste en nous, mais que peut-être qu'on a des difficultés peut-être à agir. Et le Saint-Esprit va reculer, va simplement se mettre dans un coin et rester là en attendant qu'on veut lui donner la place. Voilà, donc on a besoin justement d'avoir cette touche du Saint-Esprit et on va voir dans ces prochains temps quel est le rôle du Saint-Esprit en nous et comment est-ce que nous devons être remplis. Il parlait de cet exemple de la voile d'un bateau, hein. C'est comme le Saint-Esprit qui souffle sur la voile et nous fait avancer le bateau. Mais c'est possible que cette voile, peut-être le dimanche, elle est remplie parce on est encouragés ensemble de partager la bonne nouvelle de Jésus. On vit des belles choses, la louange, la prière. Mais durant la semaine, du lundi au samedi, c'est possible que cette voile puisse ne pas être guidée, soufflée par le Saint-Esprit. Donc aujourd'hui, j'aimerais que vous puissiez aussi noter les références, peut-être juste partager des petites feuilles derrière, parce qu'on va partager beaucoup de textes bibliques, parce qu'on veut voir comment que dans la Bible, il est parlé beaucoup du Saint-Esprit et de la façon comment que nous devons nous comporter aussi avec le Saint-Esprit. Et l'idée, c'est que vous puissiez, durant la semaine, continuer cette réflexion, reprendre ces textes bibliques pour qu'ils puissent vraiment nous encourager. Donc, la dernière fois, prochain dia, on avait vu quelques points. Donc, on va juste répéter quelques points qu'on a vus. Donc, on avait vu que pour être rempli du Saint-Esprit, c'est afin d'être rendu plus efficace dans notre témoignage et notre ministère. C'est ce que Jésus a mentionné lorsqu'il a dit aux disciples d'attendre l'Esprit Saint à Jérusalem. Hein? Actes chapitre 1, verset 8, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, de la Samarie jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, la semaine passée, le pasteur Herman a partagé justement sur les actes des apôtres, et on va reprendre quelques textes parce que c'est un peu comme la base de ce qu'on voit, comment que le Saint-Esprit est venu, et que justement, que le jour de la Pentecôte, plus de 3 000 personnes ont été sauvées, ont reçu le Saint-Esprit justement, suite à quelque chose, suite à cette effusion de l'Esprit de Dieu sur les disciples. Actes chapitre 4, verset 33, un peu plus loin, voici ce qu'il dit, avec beaucoup de puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. Soulignez vraiment cette grande grâce, une grande grâce. Ça veut dire qu'il y avait quelque chose qui se passait. Oui, c'est vrai que le premier jour, il y a eu plus de 3 000 personnes, mais fur et à mesure, jour après jour, on voit comment que Dieu rajoutait des personnes parce que cette grande grâce reposait sur l'Église. Grâce justement à l'effusion du Saint-Esprit, grâce à ce que l'Esprit de Dieu faisait sur l'Église. Hein, la semaine passée, le pasteur Herman a très bien expliqué comment que le changement qu'il y a eu par rapport à l'apôtre Pierre, hein, l'apôtre Pierre qui était un homme très intrépide, qui voulait tout savoir, qui pensait avoir toutes les réponses. mais qui a aussi renié Jésus quelques jours auparavant. Et lorsque là, il a eu cette effusion de l'Esprit de Dieu, ça a changé vraiment sa vie puisque il s'est levé devant tout le monde et il a apporté la parole, la prédication. Il a apporté pourquoi, qu'est-ce qui se passait vraiment ce jour-là. Le deuxième point que nous avons vu, c'est afin de vivre de manière désintéressée pour les autres. Donc, lorsque Pierre a prêché à la Pentecôte, il a dit que tous ceux qui se repentaient seraient baptisés, recevraient deux choses. Premièrement, le pardon des péchés et le don de l'Esprit Saint. Donc, le baptême, la plénitude de l'Esprit Saint. Donc, 3 000 personnes qu'on a vues ont cru et ont été baptisées et remplies de l'Esprit Saint. Donc, Luc, dans les Actes des Apôtres, décrit radicalement le changement qu'il y a eu parmi ces personnes, le comportement à l'égard des autres croyants et des non-croyants. Regardez, il y a la cité aussi la semaine passée, Actes 2, versets 42-47, comment que justement l'Église se réunissait ensemble, comment que les gens même aussi vendaient même leurs propriétés pour apporter l'argent, pour pouvoir permettre que tous ensemble, ils continuent d'être édifiés, encouragés, tellement qu'ils avaient soif. Ils avaient soif du Seigneur. Acte chapitre 4, versets 33 à 35. Acte chapitre 4, versets 33 à 35, il dit: Avec beaucoup de puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. On a lu ce verset tout à l'heure. Verset 34, il n'y avait aucun nécessiteux parmi eux. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun en fonction de ses besoins. Il faut s'imaginer que la plupart de ces personnes n'avaient pas grand-chose. La seule chose qu'ils possédaient, c'était leur maison ou leur terrain. Mais tellement qu'ils ont été touchés par la grâce de Dieu, tellement qu'ils ont vécu quelque chose, qu'ils ont dit, il faut qu'on soit ensemble pour entendre, pour connaître un peu mieux le Seigneur Jésus-Christ, connaître un peu l'enseignement de Jésus. Et voilà pourquoi qu'ils étaient tous ensemble à partager. Et voilà pourquoi que justement, la plupart de ces chrétiens étaient de l'extérieur, de Jérusalem. Donc, ils sont restés plusieurs semaines, plusieurs mois à Jérusalem pour goûter justement à cette première plénitude du Saint-Esprit à travers la première Église. Et voilà pourquoi qu'il y avait des besoins financiers pour pouvoir combler aussi le logement, la nourriture. Et voilà pourquoi que des gens étaient prêts à vendre leur terrain et d'apporter cet argent pour pouvoir permettre que chacun pouvait aussi continuer à vivre. On voit le changement. On voit comment que ces personnes ont tellement reçu de la part de Dieu qu'ils sont prêts à se défaire de choses financières terrestres. Alors peut-être qu'aujourd'hui, on ne va pas forcément demander de vendre votre maison ou de vendre un terrain pour apporter de l'argent à l'Église. Mais cette générosité, cette façon de faire, nous devons continuer de la cultiver pour qu'on puisse voir, comme il disait, il n'y avait aucun nécessiteux parmi les gens de l'Église. Ça veut dire qu'il n'y avait personne qui souffrait parce qu'il avait moins. Tout le monde était là, était conscient et tout le monde était là pour se servir les uns les autres. Tout le monde était conscient de ce qui se passait pour pouvoir nous encourager ensemble. Un autre point que nous avons vu, afin de connaître la victoire sur Satan et les forces démoniaques. Donc les disciples ont reçu une armure divine pour se protéger des attaques de l'ennemi, comme on lit dans Éphésiens 6, versets 10 et 17. On voit les armures spirituelles que Paul va énumérer, ou la grâce de Dieu pour résister aux attaques. On peut le voir dans 2 Corinthiens 12, versets 7 à 10. Donc, on a reçu ces armes spirituelles pour lutter contre l'ennemi. 2 Corinthiens chapitre 10, versets 3 et 4. 2 Corinthiens chapitre 10, versets 3 et 4 dit: Si en effet nous vivons dans la réalité humaine, nous ne combattons pas de façon purement humaine. En effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes grâce à Dieu pour renverser des forteresses. Ce texte est vraiment important. Il dit qu'on ne combat pas l'ennemi de par façon purement humaine. C'est-à-dire que si on essaye par nous-mêmes de lutter contre l'ennemi, on va capituler parce que l'ennemi est beaucoup plus fort que nous. Nous sommes des hommes et des femmes qui sont nés dans le péché. Même si nous sommes graciés, nous sommes encore dans cet esprit, ben pas dans cet esprit, mais dans cette façon d'être encore un humain qui peut tomber, qui peut déchoir. Et on a besoin justement d'avoir la grâce divine de Dieu. Voilà pourquoi qu'on a besoin d'avoir les armes que Dieu nous donne pour renverser les forteresses. Donc, ce n'est plus nous qui combattons l'ennemi, mais c'est Dieu à travers le Saint-Esprit en nous qui combat l'ennemi. Et encore aujourd'hui, on a besoin d'utiliser ces armes spirituelles qui nous est données, l'épée de l'esprit, la prière comme une arme aussi combative, le casque du salut, le bouclier de la foi, etc. Toutes ces armes sont là pour nous défendre et aussi pour attaquer, afin que nous puissions gagner sur l'ennemi. Un autre point que nous avons vu la dernière fois, afin de grandir dans la sainteté ou la sanctification. Donc, c'est l'Esprit Saint qui agit en nous pour nous changer, pour nous sanctifier, en nous donnant une plus grande sainteté de vie. C'est l'Esprit de Dieu en nous produit le fruit de l'Esprit. On peut le voir dans le Galates 5, hein, verset 22-23, qui dit: voici les fruits de l'Esprit, voici ce que produit l'Esprit en vous. Les traits de caractère qui font partie d'une sanctification. Donc, pour grandir cette sanctification, on doit marcher par l'Esprit de Dieu. Regardez, Galates chapitre 5, versets 16 et 17. Galates chapitre 5, versets 16 et 17. Voici donc ce que je dis: marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de vos propres natures. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudrez. Donc, comme on l'a dit avant, on reste dans cette nature de pécheresse. Voilà pourquoi il dit la nature humaine a des désirs contraires de l'esprit, parce que l'esprit vient de Dieu. Et voilà pourquoi qu'on ne peut pas cohabiter ensemble. On ne peut pas cohabiter cette nature humaine pécheur avec la nature spirituelle que le Seigneur nous donne à travers l'esprit. Voilà pourquoi qu'on doit justement être lavé, purifié. Voilà pourquoi qu'on doit marcher par l'esprit pour accomplir ce que l'esprit de Dieu nous dit. Rappelez-vous, on a parlé de John Wesley il y a quelque temps, dans ce temps de jeûne et prière de la Semaine nationale de prière avec l'Église méthodiste libre du Canada. Comment que John Wesley, tout au début, avait ce désir de vivre dans la sanctification. Donc, on appelait même qu'il faisait partie du Club des Saints. Donc, ils étaient plusieurs personnes à vouloir vraiment vivre la sainteté de Dieu, mais ils essayaient par eux-mêmes. Ils essayaient de faire par toutes sortes de choses, de rituels, de prières, de prières et d'autres choses pour pouvoir justement essayer de voir comment ils pouvaient être saints devant le Seigneur. Mais ils n'arrivaient pas, ils n'étaient pas satisfaits. Ils n'étaient pas satisfaits de ce qu'ils vivaient aussi. Voilà pourquoi qu'à un moment donné, John Wesley a réalisé qu'il devait marcher par l'Esprit, qu'il devait vraiment vivre par la grâce de Dieu, que ce n'était pas par ses moyens, que ce n'était pas par ses forces, par son intelligence qu'il était capable d'honorer, de glorifier Dieu, mais il fallait qu'il marche par l'Esprit de Dieu. Et lorsqu'il a compris, lorsqu'il a été touché vraiment par l'Esprit de Dieu, à ce moment-là, ça a changé sa vie. Et voilà pourquoi qu'il a commencé à partager cette bonne nouvelle autour de lui, et ça a eu justement l'effet d'avoir ce réveil en Angleterre. Si nous avons important d'importer de marcher par l'Esprit de Dieu, parce que si on marche par notre propre nature, la nature humaine va reprendre le dessus. Donc, regardons quelques autres points aujourd'hui. Comment être rempli du Saint-Esprit? L'autre point, c'est afin d'adorer et d'aimer Dieu du fond de notre cœur. Éphésiens chapitre 5, verset 19 qui dit: entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. On a adoré notre Seigneur à travers ce matin, à travers la louange, la prière, et l'importance que tout cela se fasse sous la conduite du Saint-Esprit. On a besoin de pouvoir louer, l'adorer Dieu, non pas par nos propres forces. Souvent, des fois, on peut même essayer d'un peu bousculer un peu. On peut le voir des fois dans certaines soirées de louange, ou même des fois, peut-être même le dimanche matin, où on nous pousse à louer le nom du Seigneur. Mais si vraiment l'Esprit de Dieu est en nous, c'est vrai qu'on peut être encouragé à louer le nom du Seigneur, mais on n'a pas besoin de pousser, on n'a pas besoin de faire certaines choses pour pouvoir adorer Dieu. Si l'Esprit de Dieu est vraiment en nous, ça va être naturel d'exprimer notre reconnaissance, notre louange vers le Seigneur. Donc, dès le matin, on doit prendre ces temps d'adoration envers Dieu qui nous a tout donné, comme le souffle de vie, comme le pardon de nos péchés, et d'exprimer par notre amour et par notre adoration. Même si peut-être il y a des choses difficiles qui se passent dans notre vie, même lorsqu'on se tourne vers notre Père céleste, dans le champ d'adoration et que peut-être on vit une chose difficile du côté de la santé, des épreuves, le Seigneur, à travers l'adoration, peut nous libérer. Combien de fois, justement, que quand je vivais des temps difficiles, que j'étais un peu morose, lorsque je prenais un temps de louange, je mettais un peu de musique de louange, ça me permettait de changer, de voir à Dieu, d'aller chercher vers Dieu le secours, le réconfort. Et je voyais que les circonstances changeaient, même si peut-être la situation n'avait pas été résolue, mais mon cœur était tourné vers le Seigneur pour l'adorer, pour le louer. Donc Dieu nous invite à chanter un chant nouveau parce qu'il désire que notre relation avec lui soit fraîche et nouvelle. Un autre point que nous voyons, c'est afin d'être reconnaissant en toutes circonstances. C'est que par son esprit que nous pouvons toujours être reconnaissants pour tout. Éphésiens chapitre 5, verset 20. Éphésiens chapitre 5, verset 20 qui dit: Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai qu'humainement, c'est difficile. C'est même impossible d'être reconnaissant en tout temps, principalement lorsque nous vivons des choses difficiles ou des épreuves. Ça ne veut pas dire qu'on doit sauter de joie lorsqu'on a perdu peut-être notre travail ou lorsqu'un membre de notre famille décède. Mais c'est l'expression de notre attitude, c'est-à-dire que Dieu, même dans les temps difficiles, sa présence, sa joie est en nous. Et le fait d'être reconnaissant, même dans les temps difficiles, montre que Dieu est avec nous, que son esprit vient ici, vient nous consoler, vient nous réconforter. Rappelez-vous ce que Job a dit lorsqu'il a perdu ses biens. Il a été tenté par l'ennemi, il a perdu tous ses biens, ensuite il a perdu même tous ses enfants, puis ensuite il a eu la maladie. Mais qu'est-ce qu'il dit dans Job chapitre 1, verset 21? L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que l'Éternel soit loué. On chante souvent ce chant. C'est une phrase quand même qui est difficile, parce que c'est vrai que on peut le chanter, oui, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, mais Seigneur, non, non, reprends pas trop, parce que là, écoute, qu'est-ce qu'il va me rester, ou est-ce que je veux pas être content, etc. Que l'Éternel soit loué. Quel que soit, qu'on soit dans la disette, qu'on soit dans l'abondance, qu'on soit dans la souffrance, qu'on soit dans la plénitude, le Seigneur est présent. Et le Seigneur veut nous dire, ne regarde pas aux circonstances de ta vie, mais regarde à moi. Et tu vas voir, tu vas vivre cette joie, cette paix en toi, qui va surpasser même les choses difficiles. Un autre point que nous voyons, c'est afin de recevoir son amour et sa joie. Regardez que même Jésus était rempli du Saint-Esprit. Tout ce qu'il a fait durant ces 3 ans de mystère, c'est parce qu'il avait reçu le Saint-Esprit. Rappelez-vous que lorsqu'il a été vers Jean le Baptiste, que lorsqu'il a été baptisé dans l'eau, qu'il est ressorti, il y a eu une voix. Il y a eu comme l'Esprit de Dieu qui est venu, puis il a dit, celui-là, c'est mon fils bien-aimé. Luc chapitre 10, verset 21, il a dit, à ce moment même, Jésus fut rempli de joie par le Saint-Esprit. Ce verset est cité suite au retour des 72 disciples qui ont raconté comment que le Saint-Esprit agit à travers eux. Rappelez-vous, Jésus avait envoyé 72 disciples deux par deux pour aller partager l'évangile. Il leur a donné le pouvoir de chasser les démons, de guérir les malades, de ressusciter même les morts. Et lorsque les 72, qui n'avaient aucune expérience de ministère, qui n'avaient fait aucune école d'évangélisation, sont revenus et ils ont raconté comment que ils ont vu comment que même justement les démons avaient peur d'eux et comme ça, Jésus fut rempli de joie par le Saint-Esprit. Ici, il n'est pas parlé simplement d'une simple joie. C'est d'avoir un beau sourire parce que Jésus reçoit une bonne nouvelle. Il est parlé d'une joie tellement grande qu'elle déborde, qu'elle ne s'exprime même par quelque chose qui n'est pas habituel. Donc justement, le Saint-Esprit veut parfois nous inonder d'un cœur tellement, d'un raz de marée d'amour, que nous demandons presque des fois de suspendre sa main de peur d'être envahi par lui. Des fois, on vit tellement de choses fortes avec le Seigneur qu'on dit « Seigneur, arrête, arrête, parce que je ne peux plus supporter ». C'est rare qu'on vit des temps comme ça, mais on a besoin de dire, Seigneur, oui, même j'ai besoin encore d'être renouvelé, de vivre vraiment cette raz de marée de ton amour, de ta paix, de comprendre comment que tu es grand, comment que tu es bon et que cette grâce m'environne, coule sur moi. La personne véritablement amoureuse de Jésus, qui prouve son amour par son obéissance, ne peut concevoir de plus grande récompense que cette manifestation promise de son bien-aimé par l'Esprit. En Pierre chapitre 1, verset 8, en Pierre chapitre 1, verset 8, qui dit, vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse. Cette joie indescriptible et glorieuse est uniquement donnée par l'action du Saint-Esprit en nous, d'être rempli par l'Esprit Saint. Lorsqu'on est en vie dans cette plénitude du Saint-Esprit, on a cette joie qui déborde, cette joie qu'on ne peut pas exprimer, même peut-être par des rires, mais cette joie, elle est là, elle est présente, elle nous fait du bien, elle nous réjouit, elle émet, elle proclame la grandeur, la bonté de Dieu. Maintenant que nous sommes remplis du Saint-Esprit, que ça nous transforme notre être intérieur, et c'est d'avoir aussi un impact aussi vers les autres. Alors regardons quelques points justement, comment que pour continuer de nous-mêmes, là on a vu les points par rapport à notre relation avec Dieu, maintenant regardons comment que nous pouvons aussi nous-mêmes vers les autres, afin d'être remplis d'assurance et d'audace. Vous vous souviendrez que lorsque Jésus a été arrêté et jugé, Pierre a nié le connaître, hein, parce qu'il craignait pour sa propre vie. Il ne voulait pas être mis à mort. Trois fois, il a dit, non, je ne connais pas Jésus. Même si Jésus l'avait averti avant, tu vas me renier. Non, 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 non. Écoute, moi, je suis ton plus fidèle serviteur. Je vais te suivre jusqu'au bout. Lorsqu'est arrivée la situation, il n'a pas été capable et il a renié son maître. Deux mois plus tard, après le baptême dans l'Esprit à la Pentecôte, on voit comment que Pierre s'est adressé à la foule, avec intrépidité et audace, les accusant de péché, leur apportant le message, ne craignant personne et de rien. Voyez-vous ce contraste? Peu de temps après, on lit dans Acte 4 comment que Pierre lui-même a été jugé, ce qu'il craignait de voir faire quelque temps avant. Acte chapitre 4, verset 8, il dit « Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, rempli du Saint-Esprit. » Donc il est devant les autorités et là, il ne craint rien. Il ne craint rien. Même quelque temps avant, il le craignait. Il a même dit, non, non, je ne connais pas Jésus, je ne connais pas cet homme. Mais il a rempli du Saint-Esprit. Alors que justement, Pierre commençait à être investi d'une puissance qui venait d'en haut et il réagit avec assurance. Le fruit de ce changement de la vie de Pierre est uniquement le fruit du Saint-Esprit. Parce que le Pierre d'avant avait la parole facile, pensait qu'il pouvait tout contrôler. Quelqu'un qui était assez orgueilleux, qui croyait être capable de tout faire. Et là, il réalise qu'il a besoin du Seigneur Jésus-Christ. Et à travers le Saint-Esprit qui était venu, il est prêt maintenant à aller jusqu'au bout. Actes chapitre 4, versets 19 et 20, il est dit, « Pierre et Jean le répondirent, « En es-tu juste devant Dieu de vous écouter, vous plutôt que Dieu ? Jugez-vous vous-même. » Quant à nous, nous ne pouvons pas ne pas annoncer ce que nous avons vu et entendu. On voit comment que justement, maintenant qu'ils sont accusés devant les autorités, ils disent, jugez-vous-même, mais nous, on va continuer. On ne peut pas s'arrêter, on ne peut pas se taire devant ce que Dieu a fait avec nous à travers Jésus-Christ et le Saint-Esprit qu'il nous a donné. On va continuer d'obéir à ce qu'il nous est demandé de faire. Donc, dès leur libération, ils rapportèrent ces événements à l'église de Jérusalem. Donc, allez un peu plus loin dans le verset 4, dans le chapitre 4, Actes chapitre 4, versets 29 et 31. Il dit, « Et maintenant, Seigneur, donc, il raconte à l'église qui était rassemblée, qui priait pour eux pour justement être délivrés, et ils vont rapporter comment qu'ils ont été audacieux, courageux, plein d'assurance devant les autorités. » Et voici la prière qu'ils font, une prière vraiment audacieuse. « Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Déploie ta puissance pour qu'il se produise des guérisons, des signes miraculeux et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Verset 31, « Quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. » Là, on voit très bien dans ce texte qu'il n'est pas parlé que le Saint-Esprit était venu comme après à la conversion. Ils l'ont reçu le jour de la Pentecôte. Mais là, quelque temps plus tard, devant le témoignage, devant la grâce, la bonté de Dieu, devant ce que Dieu a fait à travers le Saint-Esprit, ils sont de nouveau remplis de l'Esprit de Dieu. Et ils vont continuer de lancer la parole de Dieu avec assurance. Lorsque je lis ce verset, je peux dire, Seigneur, Est-ce que nous, en tant qu'Église aujourd'hui, le Carrefour de Saint-Henri, mais aussi l'Église du Québec, est-ce que nous pouvons vivre cela? Est-ce que nous pouvons voir que nos cœurs sont tellement remplis de plénitude de joie du Seigneur que lorsqu'on prie, lorsqu'on proclame la parole de Dieu, l'endroit tremble ou l'endroit est où on reçoit l'Esprit de Dieu. Oui, c'est encore possible. Il y a eu plusieurs places où on a pu voir comment que Dieu a agi, comment l'Esprit de Dieu a agi d'une façon incroyable. Et je crois que ça peut se faire encore aujourd'hui, en 2026, même aussi au sein de notre Église. Prochain point, afin de recevoir la sagesse et les mots nécessaires pour répondre aux adversaires. Comme on a pu voir Pierre et Jean, qui ont été capables d'avoir les mots pour pouvoir répondre devant les autorités, il est dit que le Saint-Esprit va nous donner des paroles. Regardez, Matthieu chapitre 10, versets 19 et 20. Mais quand on vous fera arrêter, hein, ça c'est Jésus qui parle aux disciples. Quand on vous fera arrêter, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz, que ce que vous aurez à dire vous sera donné au moment même. En effet, ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. C'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Donc Jésus va dire, ne vous inquiétez pas, même si vous n'avez pas la parole facile, même si peut-être vous devez défendre votre foi devant une personne, peut-être on ne sera pas forcément arrêté devant la justice ici au Québec, en tout cas pas pour le moment, mais nous pouvons être accusés par différentes personnes. Nous pouvons peut-être, on aura besoin de défendre notre foi devant des situations. Même dans ces moments-là, le Saint-Esprit va parler à notre place. Acte chapitre 6, verset 10, il dit, lorsque Étienne a été arrêté, lui qui était vraiment rempli du Saint-Esprit, qui était arrêté, et qu'il a parlé, devant tout le magistrat pour dire la grandeur du Seigneur Jésus-Christ, il dit, mais il ne pouvait pas résister à la sagesse et à l'esprit qui inspirait ses paroles. Les gens, devant ce que Étienne disait, ils n'étaient pas capables de riposter, ils n'étaient pas capables de donner leurs propres avis, tellement que la sagesse, l'Esprit de Dieu, la puissance de Dieu inspirait Étienne pour parler. Un prochain point, c'est afin de se servir les uns les autres. Lorsqu'on devient chrétien, on fait partie de la grande famille de Dieu. C'est comme un appât qui deviennent nos frères et nos sœurs dans le Seigneur. Le Saint-Esprit va nous aider à aimer celui qui est différent de nous, de supporter avec amour, avec gentillesse, celui qui peut peut-être nous énerver, qui est peut-être différent de nous, qui nous fait perdre de patience. C'est vrai que le Seigneur nous met tous ensemble de différentes places, de différentes cultures, de différents horizons. Mais à travers l'amour du Seigneur, nous sommes capables de nous aimer les uns les autres, de nous servir les uns les autres. Éphésiens chapitre 5, verset 18 à 21, il est dit verset 18, soyez au contraire remplis de l'Esprit. Et dans le verset 21, vous soumettant les uns les autres dans la crainte de Christ. Donc Paul va dire aux Éphésiens, dans tout ce que vous faites, soyez remplis de l'Esprit de Dieu, afin que vous puissiez vous soumettre les uns les autres, afin que vous puissiez vous aimer, parce que ce n'est pas naturel peut-être d'aimer quelqu'un qui est différent de nous, quelqu'un qui peut-être, même peut-être peut nous juger, nous condamner. Mais lorsqu'on est rempli de l'Esprit Saint, alors Dieu va agir. Dieu va nous montrer comment que nous pouvons nous servir les uns les autres. Il est impossible d'avoir de bonnes relations sans l'Esprit Saint, parce que c'est lui qui nous donne l'aide et le pouvoir de nous soumettre aux autres. Philippiens chapitre 2, versets 3 et 5. Philippiens chapitre 2, versets 3 et 5. Ne faites rien par esprit de parti ou de vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres, ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Jésus-Christ, qui était rempli du Saint-Esprit, a été capable de nous aimer jusqu'à mourir sur la croix. Et il est dit justement que nous puissions aussi, en toute humilité, nous aimer, nous servir les uns les autres. Voilà pourquoi que lorsqu'on rencontre des chrétiens de différents horizons, on a déjà cette connexion avec eux. Même si on ne les connaît pas. Quand je préparais l'exemple qui me venait à la tête, c'est quand on a vécu ce temps de congé sabbatique, on était dans l'Ouest, qu'on a été justement dans certains lieux qu'on ne savait pas où on allait vraiment dormir, et de voir comment que les gens ont ouvert leurs portes sans nous connaître. Ils ont laissé, je veux dire, s'occuper, prendre soin de leur maison. Ils ont tout laissé dans la maison sans nous connaître. C'est incroyable. Je veux dire, il y a personne qui le ferait, je veux dire, d'une façon comme ça, à un inconnu, de dire, mais écoute, je te passe ma maison ou je te passe ma voiture, ou etc. Mais cette connexion entre frères et sœurs est tellement grande qu'on est prêt justement à nous aimer, à nous servir les uns les autres. Donc, pour terminer, lorsqu'on voit ces différents points de l'importance d'être rempli du Saint-Esprit, afin de glorifier Dieu, afin d'être dans cette joie même dans les moments difficiles, d'être capable d'aimer les autres, même de faire passer les intérêts des autres avant les nôtres, d'avoir cette assurance, cette audace de partager, d'être un témoin. Est-ce que c'est possible qu'il nous manque quelque chose ce matin? J'aimerais que justement on va prendre un chant que nous connaissons, qui s'intitule Baptise-moi du feu de l'Esprit. Et qu'à travers ce chant, on puisse réaliser comment que le Seigneur veut encore nous dire quelque chose aujourd'hui. Peut-être qu'il y a un de ces points qu'on a besoin de dire, Seigneur, Saint-Esprit, viens. Viens faire une œuvre en moi. Saint-Esprit, peut-être que j'ai perdu peut-être cette audace. Peut-être que j'ai perdu cette joie de te servir. Peut-être j'ai perdu ce service les uns les autres, où j'étais capable de pouvoir aimer l'autre, de pouvoir donner même sans retenue. Si nous laissons, si nous sommes sincères devant le Seigneur, le Saint-Esprit va nous montrer peut-être un point, un ou deux points. Et il veut que nous puissions être restaurés, guérir. Il veut qu'on soit baptisés, qu'on soit remplis de l'Esprit de Dieu, afin qu'on puisse vraiment être changés, nous, mais qu'on puisse aussi changer les autres. Nous sommes maintenant dans un temps où justement nous parlons un peu de la revitalisation, on parle qu'on a besoin d'un renouveau au sein de notre Église, au sein de justement de notre Église. Et je crois que ça va commencer par nous, de dire Saint-Esprit, viens. Même si on est peu nombreux, même s'il y a peut-être juste deux, trois personnes qui, entre guillemets, sont remplies de l'Esprit de Dieu et qui propagent cela autour de nous, alors des choses vont se passer. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ce chant. Donc, j'ai mis les chants, les paroles à côté, qui fait qu'on peut regarder un peu aussi. On peut regarder par rapport aux points que nous avons énumérés, ces 10 points. Comment est-ce qu'on peut être touché par le Seigneur? Alors, simplement, courbons notre tête pour quelques instants. Je vais inviter le groupe de louanges à venir devant pour justement nous entraîner dans ce chant. Et sentez-vous à l'aise de prier. Sentez-vous à l'aise de vous mettre à genoux, d'implorer le Seigneur, d'implorer le Saint-Esprit. On veut vraiment laisser l'Esprit de Dieu travailler en nous. Peut-être que c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. C'est vrai qu'on n'est pas une église très expressive dans les dons de Dieu, dans l'Esprit. Mais peut-être qu'on a besoin de dire, Seigneur, je veux avoir une touche spéciale de toi. Je veux vivre quelque chose avec toi cette année. Je veux pas me contenter de venir le culte le dimanche matin et le reste de la semaine de faire à ma façon. Je veux vivre cet Esprit de Dieu avec toi aujourd'hui, demain et après-demain et à tous les jours. Je veux influencer mes frères et sœurs. Je veux influencer ma famille pour qu'elle puisse vraiment être touchée, remplie du Saint-Esprit. On a vu tellement de textes où il est dit que les disciples remplis de l'Esprit Saint ont fait des choses merveilleuses. Je crois que l'Esprit Saint était là aujourd'hui encore pour si on est disponible, si on veut, de le laisser agir en nous. Oui, Seigneur, viens nous renouveler. Saint-Esprit, viens encore faire une œuvre nouvelle en nous. On a besoin d'avoir ta touche spéciale. On l'a vu, Seigneur, aujourd'hui, comment que, Seigneur, on a besoin d'être régulièrement renouvelé, touché, rempli de ton esprit. Merci parce que tu es là, encore là avec nous aujourd'hui. Merci, Saint-Esprit, parce que tu continues de travailler en nous afin que nous puissions briller pour toi. Briller à l'intérieur comme briller aussi à l'extérieur, afin que le monde reconnaisse que tu es grand, que tu es puissant. Seigneur, donne-nous cette audace, donne-nous cette assurance d'être des chrétiens qui sont pleins de lumière, qui brillent pour toi. Donne-nous cet amour de pouvoir nous aimer les uns les autres, tellement grand dans un sacrifice vers l'autre. Donne-nous d'avoir cette plénitude de joie jour après jour. Seigneur, il y a tellement de choses que, Seigneur, l'Esprit Saint fait en nous et nous voulons, Seigneur, accueillir de continuer d'être renouvelé encore. Et Seigneur, maintenant qu'on va bientôt quitter cet endroit, nous désirons que vraiment, Seigneur, ton esprit continue de travailler en nous, continue de nous façonner, de nous renouveler pour que, Seigneur, nous puissions continuer de marcher d'une façon juste et digne devant toi. Alors merci, merci Saint-Esprit parce que tu es là avec nous. Merci parce que tu vas continuer d'être là avec nous sur le chemin de retour durant, Seigneur, cette journée, cette soirée, durant la journée de la semaine. Et Seigneur, on te prie que, Seigneur, ton esprit puisse travailler en profondeur pour nous changer, nous renouveler, comme aussi, Seigneur, que cet esprit puisse vraiment être visible aussi à l'extérieur. Que cette lumière qui brille en nous, les gens puissent le voir, puissent demander, et que ça puisse être un témoignage vivant pour toi. Alors merci, merci pour ce que tu nous as appris ce matin, et que ton nom seul soit glorifié pour tout ce que tu es pour nous. Merci Seigneur Jésus, que ton nom soit glorifié par ton nom puissant à prier. Amen.